péché que nous commettons est volontaire. Tous. Paul dit, je ne veux pas faire ce que je déteste. Et verset 16. Or, je ne fais pas ce que je veux, je reconnais que par la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et ici, il a fait cette découverte ici. Ce qui est bon, je le sais, n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas le vouloir. Rien qui peut me rendre juste au nom de Dieu. Peut-être ça peut être bon. C'est comme si vous tenez la porte ouverte pour une personne qui a le besoin. C'est une bonne chose d'avoir tenu la porte pour quelqu'un. On ne va pas l'abandonner. Ne dites pas à quelqu'un qui a les mains pleines, je ne te tiens pas la porte, ça ne me sert à rien. Non, on ouvre la porte, c'est bien, ce sont des bonnes choses. Bénis quelqu'un, aide quelqu'un. Fais le bon envers tous, et en particulier ceux de la maison de l'Éternel. Mais Paul, il dit, il n'y a rien que je puisse faire qui me permettrait d'avoir le mérite d'être dans la présence de Dieu. Peu importe combien vous aidez les personnes déjà traversées, toutes les bonnes activités et les bonnes choses que nous faisons ne nous acquièrent pas la paix avec Dieu. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et en fait, verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il dit donc en verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? De ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis dans la chair esclave de la loi du péché, ce qui amène finalement à cette conclusion extraordinaire, au chapitre 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quelle promesse de Dieu! Quelle délivrance que Dieu nous a donnée au travers de cette promesse unique. Hier, nous étions à Washington. Quelqu'un, en rentrant, m'a posé la question. C'est la capitale, bien sûr. À Boston, New York, où je suis souvent. Ces trois villes, laquelle préfères-tu, les trois villes? Je pense que c'est New York, je réponds. Parce que c'est tellement grand. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de restaurants. Tu peux avoir 305 restaurants trois fois par jour et ne jamais avoir besoin d'aller au même restaurant. Et je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Pensez-y, New York. Quel endroit? Allez au Brooklyn Bridge et vous verrez le quartier de Manhattan. À Broadway, ils ont des shows là-bas. Si vous êtes inspiré, vous allez à la Statue de la Liberté. Et vous pouvez aller sur le Staten Island Ferry, c'est gratuit. Et ça vous... Et c'est jusqu'à Manhattan, aller-retour. Si vous voulez aller faire du shopping, 5e avenue, mais amenez votre... Mais si vous voulez être choqué, si vous voulez être bouleversé, si vous voulez être déprimé... Non, je ne dis pas d'aller voir les Knicks au New York Madison Square Garden. Je dis pas que c'est ce que je veux. Et Pastor Cooper... est à New York aujourd'hui, mais moi je préfère être avec vous aujourd'hui. LeBron James, les Lakers, tu peux avoir tout ça parce que t'es Cooper, mais moi je préfère être ici. Mais non. Si vous voulez être découvert, découragé, déprimé, ici c'est là que vous devez aller. Vous allez au coin de la 6e et de la 43e. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous y êtes? Et vous allez regarder le compteur de la dette américaine dans ce coin. Ça fait 10 mètres de long, plusieurs tonnes. Il utilise 300 ampoules et il déclare à chaque. Il compte la dette qui s'accumule. C'est affreux de voir. C'est cette dette qui s'accumule. C'est notre dette à nous. Et ça continue à monter, à monter, à monter, à monter. C'est dans les trillions maintenant. C'est pour ça que j'espère qu'on a une bonne offrande. Non, je plaisante. Et ce qu'ils me disent, ils pensent qu'ils vont devoir enlever ce panneau parce qu'on va en avoir un plus grand encore. Pourquoi est-ce que je parle de cette dette? Vous posez cette question. Imaginez que si le ciel avait ce même panneau. Pensez-y. Même Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, il dit prier en disant pardonnez notre dette. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Souvent, dans la Bible, le mot péché et le mot dette est utilisé de manière interchangeable. Imaginez, à chaque fois que nous échouons, à chaque fois que nous péchons, imaginez qu'il y a un compteur au ciel qui clique à chaque fois, après chaque infraction. Imaginez ce que ça serait. On mange, on manque, clic. On vole, clic. On calomnie, clic. On convoite, clic. On veut vivre notre façon, à notre façon. Imaginez combien d'années je suis vivant et combien d'années cette horloge aurait dû enregistrer toutes ces dettes. Et nous connaissons les conséquences du péché. En Ésaïe 59, verset 2. Vos péchés, votre iniquité, vous en séparez de votre Dieu. Votre péché a fait qu'il cache sa face de vous. Les mathématiques du ciel sont très simples. Le ciel est un endroit pour les gens parfaits. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des gens parfaits, nous sommes un bazar parfait. On voit qu'il y a un problème ici. Chaque jour, c'est ce que nous devons réaliser. Chaque jour rajoute des péchés à ce s'il y aurait ce compte. Plus de questions. Tout comme l'apôtre Paul, à la fin du chapitre 7, ici. Qui me délivrera? Comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est comme si chaque jour vous leviez et vous entendez un nouveau clic à chaque péché, un autre clic, un autre clic. Peut-être on s'interroge et on commence à être sérieusement concerné par qui nous empêche même de dormir. On a peur d'accumuler des péchés. Alors que ça continue à cliquer, cliquer, ajouter, ajouter. C'est quoi cette dette morale que les gens expérimentent? Ça les envoie dans cette extase de faire des œuvres, faire des œuvres, faire des œuvres pour racheter. Je dois m'assurer de payer cette dette. Je dois trouver un moyen d'inverser la tendance de ce compteur. Et même, il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. On a l'impression qu'on est en dette devant Dieu. Nous savons combien, même nous-mêmes, nous savons combien nous avons été pécheurs, comme le dit l'apôtre Paul ici en chapitre 7. On sait très bien ce qui se passe dans nos âmes. Nous sommes allés à l'église. Hier soir, nous étions donc à Washington. J'étais donc en tant qu'aumônier pour l'équipe de basket hier, le coach pour les Washington Wizards jouait pour les Knicks. Il venait aux Knicks avant. Il dit pas seulement, mais qu'est-ce que tu fais? On joue les Knicks ce soir? Et si c'est ça, j'ai mal lu mon calendrier. Je dis, on est en coach. J'ai une promotion. Non. Votre aumônier peut pas être là, donc il m'a demandé de le faire. On a eu un bon. J'étais complètement détaché. Pour moi, émotionnellement, c'était pas mon équipe. Il y avait cette femme qui était assise là avec deux enfants. Et elle dit, mais vous demandez, vous venez d'où? Oh non. Je dis, non, je viens ici. Je suis, je travaille pour Linux. Je suis l'aumônier. Ah, oh. Elle était gentille, elle était. Mais toute la soirée, elle buvait cette boisson. À la fin de la soirée, je ne le plaisante pas. À la fin de la soirée. Elle m'a donné la confession en tant qu'avec les catholiques. Elle dit, Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Et je me suis dit, mais madame, moi aussi, hein. Je sais pas si je peux vous aider, mais je peux vous parler de la bonne nouvelle de Jésus. C'est pas une confessionnelle ici. Quand on est parti, elle dit, oh, c'était tellement bon de vous avoir rencontré. J'ai dit, j'espère que vous ne conduisiez pas. Des bonnes œuvres. Elle m'a dit, je sais, c'est une bonne personne. Peut-être qu'elle fait partie de ces gens qui a tout mis tous ses efforts de faire des bonnes choses pour Dieu en espérant qu'un jour ou l'autre, ça allait payer sa dette morale. Et ce matin, et on peut dire, oui, j'entends l'horloge de la dette qui s'accumule. Et les gens qui sont pris dans ce système des bonnes œuvres, pour eux, c'est comme c'est sans fin d'essayer d'être mieux, de toujours accomplir plus, de prier plus, d'aller plus à l'église, de donner plus. Et dans leur cœur, il y a toujours cette question. Malgré avoir tout fait, la question est toujours, est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai inversé le cours de la dette aux yeux de Dieu? D'autres personnes? Il y a donc ceux qui se jettent dans les œuvres. Il y en a d'autres qui sont dans incrédulité complète, ils disent c'est impossible pour moi de rattraper cette dette, on ne peut pas faire plaisir à Dieu, c'est impossible, on ne peut jamais faire assez. Donc leur conclusion à ces gens-là, c'est de dire, c'est que bon, voilà, je vais me dire il n'y a pas de Dieu. Et ils embrassent l'athéisme. L'autre groupe, ils embrassent le légalisme. C'est légalisme et athéisme. Quelques jours, on était à New York, Rachel Canino à l'époque. On était à la centre de presse avant la chapelle. Elle s'assoit avec les gens. Et il le regarde, il demandait si elle était avec un média. Elle dit non, je suis avec l'aumônier. Vous poser des questions, oui. Mais c'est pas difficile d'être chrétien. Et sa réponse était non. La réponse était non. Non, c'est pas difficile, c'est impossible. Il était complètement étonné et il a dit non, c'est Christ qui le fait en nous. Et je peux vous citer dans mon article, oui, bien sûr, c'est impossible. Ces gens qui ne comprennent, ils veulent même pas essayer parce que pour eux c'est trop dur, ils pensent pour eux que c'est impossible de satisfaire Dieu. Donc il ne doit pas exister, puisqu'il est impossible de faire ce qu'il exige de nous. On a donc deux réactions opposées. D'un côté les athées et de l'autre côté les légalistes, deux extrêmes. Celui qui est seulement travaille tellement pour impressionner Dieu et l'autre pense que Dieu n'existe pas. Et nous savons combien le légalisme est fatigant et nous savons combien il est solitaire d'être athéiste. Mais est-ce que ce sont les deux seules options? La réponse est non. Il y a une réponse que Dieu nous a donnée. Et on retrouve la réponse ici en Romains 8, 1. C'est une déclaration de ce que Dieu a fait sur la croix. Et c'est succinct, c'est une déclaration qui vient du trône de Dieu. Et quelle est cette déclaration? Aucune condamnation. C'est ça la conclusion, aucune condamnation. Comment est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Ne comprend-il pas la dette que nous avons? Et lui-même, il comprend cette dette, puisqu'il le dit en chapitre 7. Mais on sait très bien, en Actes chapitre 9, que l'apôtre Paul a reçu sa conversion. Paul réalise la signification de la grâce pour la première fois. C'est pas que Paul a saisi de la grâce, c'est que la grâce a saisi Paul. C'est la grâce qui nous saisit. Certains croyants disent « je comprends la grâce ». Mais non, c'est pas moi qui dois comprendre la grâce, c'est la grâce qui doit me saisir. On doit changer la manière dont on se voit. Ça change la manière dont on voit les autres. Ça change la manière dont on voit la manière dont on voit le corps de Christ. Dieu nous aime trop pour nous laisser. Et donc, il faut laisser à Dieu l'œuvre du salut, c'est pas à nous. Dieu est celui qui vient et qui établit un standard pour notre salut. Quand on voit ce standard, et on sait très bien qu'on n'est pas à la hauteur, alors on reconnaît la véritable nature du péché. C'est pas le monde qui établit un standard, c'est Dieu qui établit un standard. C'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est lui qui détermine quelles sont les règles. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui établit les standards. Quand on vient au salut, c'est Dieu qui établit le salut. Quand il est question... on vit dans un monde où le monde veut changer les standards de Dieu et on veut relativiser la moralité et les choses sont bien, ne vous comparez pas aux autres, sinon vous allez être découragé. Donc, et si tu t'entoures de gens mauvais, ça te fera, tu paraîtras très bien à côté d'eux. Et aucun d'entre nous n'avons été capable d'être à la hauteur des exigences de Dieu, mais Christ, en revanche, il a réussi, lui, d'une manière impossible à accomplir pour nous, car il n'a jamais péché. Imaginez cela. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu l'a rendu péché pour nous, pour celui qui ne connaît pas le péché, aucun péché, aucun. On ne peut même pas s'identifier avec ça, parce que nous, dans nos vies, ce n'est que péché. Il a été parfait, même en grandissant, même dans sa maison. Qu'est-ce que c'était pour ses frères et sœurs? Imaginez tout ce qu'il faisait dans l'atelier de charpentier de son père devait être parfait. Mais dans ma famille, on est 8 enfants, on était à table. Il y avait toujours un petit peu de bousculade, un petit peu de problème. Quelqu'un avait un mauvais jour. Et on lui passe-moi. Et Et passe-moi le sel. Tu penses que c'est quoi ça? Tu penses que t'es Dieu? Et en fait, Jésus disait, oui, moi je suis Dieu. Imaginez, il n'a jamais péché dans ses pensées même, jamais péché de manière indépendante vis-à-vis de Dieu, ni dans ses relations avec les êtres humains. Donc le standard que Dieu met en place, on ne trouve que dans la personne de Christ. On peut dire que Christ est le standard de Dieu. Comparé à Christ, tout ce qu'on entend, nous, c'est une autre horloge. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui est parfait. Il est saint, on n'est pas saint dans notre chair. Il est sans tache, nous sommes tachés. Et peut-être que Dieu aurait pu oublier, mais il peut pas, parce qu'il peut pas oublier nos péchés, parce qu'il est juste. Donc on est toujours fait face à ce dilemme. Qu'est-ce qui peut être fait ici? Si vous écoutez les Écritures avec attention, vous apercevez en fait que c'est Dieu qui a vécu en tant que substitut dans notre vie imparfaite pour une vie parfaite. Et nos péchés ont été transférés sur lui à la croix. Et c'est arrivé au moment où nous avons exercé la foi en Jésus-Christ. En Romains chapitre 4, versets 3, 4 et 5. Abraham a cru Dieu. Et ensuite il dit, et ça lui a été imputé à justice. Abraham, qu'as-tu fait? Rien. J'ai cru Dieu. Et quand vous croyez Dieu, c'est la seule chose que vous pouvez faire et vous réalisez que vous n'avez rien pu faire. Abraham a cru Dieu et c'est tout ce qu'il a pu faire et pourtant ça lui a été imputé à justice. Mais oui, bon, ça c'est Abraham. Abraham aussi, il a entendu la dette du péché. À chaque fois qu'il a dit qu'il commettait un péché, qu'il questionnait Dieu, où est-ce que tu m'amènes? Clic, clic, à chaque fois, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Clic, 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 à chaque fois qu'il mentait. Si il a été imputé, sa justice l'a été imputée, c'est pas parce qu'il n'avait pas été pécheur. Il était comme vous et moi, pécheur. Il pouvait très bien entendre aussi la dette du péché s'accumuler, mais il croyait Dieu. C'est la chose qu'il a fait. Pensez-y. Vous savez ce qui s'est fait au moment où Abraham a cru Dieu et sa dette s'est remise à zéro. Et au moment où vous et moi avons cru en Dieu, notre dette s'est annulée complètement. On n'a rien fait. On n'a pas rejoint le groupe des légalistes en essayant de trouver des moyens et où on n'a pas été dans l'autre groupe qui dit, bon, il ne peut pas y avoir de Dieu parce qu'aucun Dieu ne pourrait établir un standard aussi élevé. Mais pour moi, je ne vais ni être légaliste, ni athée. Je me tourne vers Dieu. C'est lui qui va y rétablir les comptes et enlever la dette du péché. Et parce qu'il va me donner la justice de Christ. Dieu est trop juste pour ne pas s'occuper de notre péché, mais il est trop amour pour ne rien faire. Donc il a pris le péché et il a mis notre péché sur le Fils. C'est comme il dit, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix, Jésus? La réponse, si elle avait été donnée par Dieu, ça aurait été ceci. Tu apportes maintenant les péchés du monde entier, les péchés de tout le monde. C'est pour ça qu'il a été séparé de Dieu. Ça paraît incroyable, mais c'est pas important si c'est incroyable. C'est Dieu qui détermine quelles sont les règles. C'est la maison de Dieu, c'est le monde de Dieu. Et si vous devez être sauvé, vous devez croire ce message. C'est accompli en Jean 19, 30. Et on dit, nous, il n'y a donc aucune condamnation. Donc, aucune condamnation. Pensez-y. En Matthieu 15, au moment de la mort de Christ, tellement de choses s'est passé, bibliquement. Mais un miracle s'est passé en Matthieu 15. Il cria avec une voix forte. Il a pris son dernier souffle. Et le voile dans le temple a été déchiré du haut vers le bas. Vous devez comprendre, ce voile dans le temple, pour les peuples, c'est pas des petits tissus de mauvaise qualité. Personne n'avait la force de les déchirer. Parce que c'était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, de la présence de Dieu. C'était 30 mètres de haut et 10 mètres de large. Et c'est pas simplement un tissu, c'était un ensemble de tissus. C'est Dieu qui a mis ses propres mains du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'il a été déchiré depuis le haut du ciel jusque sur la terre. Et il a donc ouvert dans le temple, la possibilité pour les croyants de rentrer dans le lieu très saint, la présence de Dieu. La question c'est, plus de voile, plus de division, plus de séparation, plus de sacrifices à effectuer, plus de condamnation, plus de barrières qui nous séparent de Dieu, qui auraient pu nous séparer des uns des autres. Tout cela est fini. Il n'y a plus la crainte de se retrouver démuni dans ce sens. C'est Dieu qui est allé nous chercher et a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit juste. C'est fini cette recherche de faire assez pour Dieu. C'est fini de faire ce que le légaliste veut faire. Maintenant, on peut aller voir le légaliste et lui dire, tu peux te reposer maintenant. Tu peux arrêter de chercher à rendre plaisir à Dieu, parce que te reposer simplement et embrasser la réalité de la croix dans ta vie, tu peux trouver le repos. On dit au légaliste, c'est ce qu'on lui dit. Et à l'athée, on lui dit, tu sais, il y a un espoir pour toi. Un groupe trouve le repos, l'autre trouve l'espoir, mais les deux trouvent le salut. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham, notre Dieu, n'est pas un Dieu de fardeau, c'est un Dieu de repos. C'est un Dieu de repos. C'est comme la première fois que vous perdez votre sang-froid, Dieu dit « j'ai payé pour ça ». Ou vous regardez quelque chose que vous ne devez pas regarder, Jésus dit « j'ai payé pour ça ». J'ai versé mon sang. Vous mentez, et donc le Sauveur nous dit, ma mort le couvre ce péché. C'est une œuvre du Père et du Fils. C'est pas Dieu qui nous dit, bon, faites au mieux, essayez de grimper la montagne vers moi. Non, c'est lui qui descend dans nos vallées, et il nous trouve. Et il nous dit, je sais que vous êtes incapable de prendre un pas dans ma direction. C'est comme s'il disait, monte sous mon dos, je vais te monter sur la montagne. Je vais t'amener là où tu dois être. Je vais te faire traverser cette crise, cette semaine, cette difficulté, cette épreuve. Heureusement que Dieu n'a pas nous demandé à ce qu'on paye nos dettes, c'est lui qui a payé la dette. Si Dieu n'avait pas payé la totalité de notre dette, il paye toute la dette, il ne paye pas une partie de la dette. Il ne fait pas, il dit pas, je commence, tu finis. Il dit pas, je connais ta... Il dit, je vais commencer l'œuvre, je vais finir l'œuvre. Je sais que vous êtes fait de poussière. Et je sais que tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de croire, et c'est tout ce que je vous demande. Et c'est comme ça que vous serez juste en Christ. Parce que Dieu, lorsqu'il donne la justice, il le donne. C'est le don de la justice. Il ne nous dit pas de nettoyer nos vies de manière à ce qu'il puisse nous aider. Il nous lave de nos péchés sans notre aide. C'est quelque chose qu'il fait pour nous, parce que c'est sa nature. C'est le genre de Dieu que nous servons. Je me rappelle cette question qui a été un homme cynique pour une question à une vieille dame. Est-ce que vous pouvez vraiment être certaine de votre salut éternel? Comment vous pouvez être certain? Le cynique pose la question. Comment est-ce que vous êtes aussi certain? Vous avez vécu une bonne vie, c'est vrai. Toutes ces années, vous avez dédié à Dieu. Mais comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr qu'après toutes ces années, Dieu ne va pas vous laisser en enfer malgré tout? Parce qu'il perdrait plus que moi. Je perdrais mon âme. Et il perdrait lui sa réputation. Vous réalisez ça? Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Il a mis son caractère en jeu. Et s'il ne peut pas nous sauver, et s'il ne peut pas nous rendre justes, s'il ne peut pas nous perfectionner, s'il ne peut pas inverser les directions de cette dette, c'est lui qui, il perd sa réputation. Peut-être que nous périrons, mais lui, il perdra beaucoup plus parce qu'il n'aurait pas été à la hauteur de sa parole. Et quand il s'agit de sa réputation, Dieu la maintient. Il veut que le monde comprenne qu'il est un Dieu glorieux, un grand Dieu, qui fait ses promesses, des promesses, et qu'il les garde, qu'il nous donne la grâce, et qu'une grâce qui sera suffisante pour tous nos besoins dans la vie. C'est ce que Dieu fait pour nous. Quel don. On peut y partir ce matin en ayant la compréhension, l'assurance que notre vie ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, parce que Dieu a déjà fait tout pour nous. Ne laissez pas cette culpabilité mijoter dans votre âme, comme on le voit dans tellement de croyants, comme une toxine. On va intérioriser les promesses de Dieu. Et on dit maintenant, aucune condamnation. Ni maintenant, ni dans le futur. On intériorise les promesses, que les promesses de Dieu. Prenez cette promesse. Amenez-la à votre horloge de la dette et célébrez. Parce que la dette que nous devions payer est effacée pour toujours. Ce serait extraordinaire de pouvoir retourner dans ce quartier de New York et voir que la dette est descendue à zéro. Et on dira à ce président qui est capable d'effacer la dette, on va vous élire pour l'éternité. Probablement, ça n'arrivera pas. Mais notre dette à nous est à zéro. Pourquoi? Simplement parce que nous avons cru Dieu. Simplement parce que nous avons pris cette promesse avec notre nom dessus. Et on s'est dit que chaque état, partie de mon âme, je vais m'accrocher chaque partie de mon âme à cette vérité, cette promesse, et ça va me garder, ça va me porter pour le reste de ma vie. Et si vous avez un doute, Dieu dit, la miséricorde vous suivra tous les jours de votre vie en psaume 23. Amen. Amen.